tous les secteurs professionnels dédiés au bien public, tels que le soin, le travail social, la justice, l'éducation, la recherche, l'information et la culture, subissent depuis des mois des réformes gouvernementales qui assignent à ces secteurs des objectifs de rentabilité financière et de paranoïa sécuritaire qui remettent en question les fondements et engagements éthiques de ces professions. De nombreux mouvements de protestation et de résistance à cette idéologie du rentable et du sécuritaire ont ainsi vu le jour, des mouvements auxquels l'appel des appels lancé en décembre 2008 par les psychanalystes Roland Gori et Stéphane Chédry souhaitent donner des occasions de rencontres et d'échanges. Après le 104 à Paris, le 31 janvier 2009, une soirée était organisée à Marseille, à la Friche La Belle de Mai, le jeudi 12 mars 2009, soirée dans laquelle une vingtaine d'intervenants ont pris la parole devant un public nombreux pour dire les raisons de leur engagement dans la démarche initiée par l'appel des appels. Sur Radio Grenouille, nous vous proposons d'écouter certaines de ces interventions. Aujourd'hui, c'est celle d'Yves Grenier, technicien du spectacle.
Dans ce texte que je vais vous lire, qu'entre les lignes, l'ensemble des sous-composantes de la culture se retrouve. Alors par ailleurs, j'ai choisi d'écrire à une lycéenne dans le cadre de cette intervention, une lycéenne de 17 ans en première, et qui suit, dans le cadre d'horaires aménagés, un cursus danse. Ça n'est autre que ma fille. Et je souhaitais m'adresser à elle, parce que je pense que, au travers d'elle, je pense que l'appel des appels doit s'adresser aussi à la jeunesse. Je pense que c'est très important, et je ne vois pas comment une chose aussi magnifique que ce qu'il est en train de se passer dans le cadre de l'appel des appels puisse se passer sans les jeunes. Voilà. Ma chère Mathilde, la situation n'est pas bonne et cela ne concerne pas que la culture. À la question comment se présente l'avenir des compagnies ou structures du secteur dit indépendant, et ce dans toutes les disciplines artistiques, la réponse est clairement que leur avenir s'assombrit. Et il en va de même pour l'ensemble du milieu culturel, car je n'oublie pas en t'écrivant les secteurs de l'audiovisuel, du patrimoine, de l'éducation populaire, même si celle-ci est sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports, des arts plastiques, sûrement les plus mal lotis de tous, de l'architecture, de l'écriture, etc. Aussi, je viens vers toi pour t'alerter. Sais-tu que la politique culturelle de notre gouvernement se propose de mettre à terre ? Ce sont les politiques de la ville et des territoires, la démocratie culturelle et la culture de proximité, le rayonnement international au travers de nombreux établissements culturels implantés à l'étranger, les crédits d'intervention en direction des populations défavorisées, mais aussi des amateurs, de l'éducation populaire, sans oublier l'enseignement artistique, ainsi que le développement des nouveaux territoires de l'art, des territoires ruraux, par exemple. Une bonne nouvelle peut-être, la prochaine gratuité des musées pour les moins de 25 ans. À ce détail près, le président n'a pas indiqué comment il comptait financer cette gratuité. Cette annonce n'est pas sans rappeler celle du retrait de la publicité dans l'audiovisuel public. Dans le même temps où ce gouvernement nous refuse, nous restreint ou nous retire les moyens de la création et de la diffusion, il nous assène qu'il fait tout pour nous permettre de créer et de diffuser nos œuvres. Et ce qui est plus grave encore, c'est que ce fossé entre la parole et les actes ne touche pas que la culture, mais touche aussi, et en cela je me répète, d'autres secteurs de notre pays tels que la santé, l'éducation, la justice, le social, et j'en passe. L'avenir n'est pas plus radieux pour les structures dites conventionnées qui, elles, bénéficient ou bénéficiaient de financements ministériels. En effet, Un grand nombre d'entre elles seront dorénavant appelées à évoluer dans un contexte toujours plus difficile, incertain et instable. Et que dire des structures qui n'ont jamais bénéficié de l'aide de l'État ? Par exemple, ces fameuses compagnies émergentes, celles qui n'ont aucun lieu de travail, aucune vraie perspective, et qui sont laissées à l'abandon et livrées à la précarité la plus extrême. As-tu entendu parler récemment de la création du Conseil de la création artistique ? Ce conseil, figure-toi, sera chargé d'éclairer les pouvoirs publics, rien que cela, en matière de création artistique, et sera présidé par notre président en personne, président qui deviendra de fait l'arbitre omniscient de la future création culturelle française. Je me demande maintenant à quoi va bien pouvoir servir notre ministère de tutelle pour lequel tant de grands noms se sont battus. Ce conseil sera dirigé par un producteur de cinéma, Marine Karmitz, qui me semble déjà bien loin de nos difficultés et de nos réalités, si j'en crois le générique de l'une de ses productions, générique sur lequel est écrit ceci, œuvre collective de Marine Karmitz. Et ce n'est pas son récent passage sur les ondes de France Culture qui dissipera mes craintes. L'un des premiers chantiers, Mathilde, de ce conseil serait la modernisation des maisons de la culture fondée par André Malraux. C'est rien de dire que le message qui nous est adressé est clair. Toutefois, et même si la situation est mauvaise, il nous faut nous retrousser les manches. Nous ne pouvons en effet laisser un pouvoir détricoter tout ce qui a été construit depuis plus de 60 ans, pas plus que nous ne pouvons laisser mettre à mal le libre accès à la culture pour le plus grand nombre. La situation est difficile comme l'est, et le reste d'ailleurs, celle des intermittents du spectacle. Certes, nous le savons, ou du moins nous le pressentons intimement, mais nous sommes condamnés à plus ou moins long terme, contrairement à ce qui peut être annoncé ici ou là. Car si les intermittents tiennent encore aujourd'hui par un fil, ce n'est pas comme tu pourrais le croire grâce à l'impérieuse nécessité de l'existence de professionnels du spectacle, c'est, et quelle ironie du sort, grâce à la crise qui secoue actuellement notre planète. À l'heure où des milliers de personnes se retrouvent brutalement sans emploi, ce n'est pas le moment d'exclure même des saltimbanques de l'indemnisation chômage. Face à cette situation, voici ce que le gouvernement nous répond. Que tout cela est la faute à la difficile conjoncture. Qu'il faut des réformes pour la France. Le mot réforme. Ce mot passe-partout qui finit par ne plus recouvrer aucun sens. Un jour, c'est la faute à la dette. Un autre jour encore, les caisses de l'État sont vides. Sauf qu'apparemment, elles ne seraient pas vides pour tout le monde. Aussi, pour nous faire passer la douloureuse, l'État se tait donc de mots et tronque les chiffres. Un jour, le budget de la culture est stable, c'est la ministre elle-même qui le dit, et quelques heures plus tard, à peine, le Premier ministre, en personne, enjoint tous les artistes à participer au désendettement de l'État. Quand tu sais que tout notre travail ne représente même pas 1% du budget de la nation, cette assertion ministérielle frise le cynisme. Et c'est donc à l'instant où s'inscrivent les calculs d'un budget en trompe-l'œil et que s'abattait sur le territoire une politique culturelle sans souffle, sans désir et régressive, c'est à cet instant que la ministre de la Culture sortira de son chapeau, pour calmer notre colère, un lapin qu'elle nommera Entretien de Valois. Les Entretiens de Valois, Mathilde, c'est le dernier salon où l'on aura causé, car en effet, notre président, quelques heures à peine après la clôture de ses entretiens fin janvier 2009, décidera sans aucune concertation préalable de prendre la haute main sur l'avenir de la création en inventant donc le Conseil de la création artistique. Sur un tout autre plan, contrairement aux idées reçues, nos professions sont bardées de textes réglementaires. Bien peu de gens savent que nous sommes un secteur de plus en plus méthodiquement et sévèrement contrôlé. Et je ne te parle pas là du nécessaire code du travail, ni des nécessaires conventions collectives applicables à tout entrepreneur français. Un exemple. Sais-tu que nous sommes, sauf erreur ou omission de ma part, le seul secteur d'activité dans lequel tout entrepreneur de spectacle doit passer tous les 3 ans devant une commission pour vérifier avec elle notre bonne application des textes en vigueur. En d'autres termes, cela signifie qu'au-delà des contrôles dont nous faisons naturellement l'objet comme toute entreprise, Notre droit d'exercer nos activités peut nous être retiré tout au long de notre carrière. C'est un peu comme la double peine en quelque sorte, mais il paraît que nous serions des tricheurs invétérés. Ultime exemple technique, l'UNEDIC vient encore de nous inventer un nouveau machin nommé numéro d'objet. Ce énième instrument de contrôle vise à établir un repérage, une sorte de traçabilité des intermittents du spectacle. Mais ce nouvel outil, en réalité, a une toute autre fonction, plus pernicieuse celle-là, celle de nous maintenir à tout prix dans le cadre étroit d'une création bien orthodoxe et bien formatée. Je m'explique. Autrement dit, le plateau, plus généralement le lieu de la représentation, se transforme petit à petit en échafaud. Et il ne fera pas bon à l'avenir pour les artistes qui interviendront en milieu scolaire, pénitentiaire, hospitalier ou autre, de se revendiquer artiste ou artiste intervenant et non enseignant ou pédagogue, ce que nous ne sommes pas. Chez nous aussi, Mathilde, la précarité, c'est deux poids, deux mesures, mais précarité toujours. Il y a d'abord la précarité des structures les plus fragiles, les compagnies peu ou pas soutenues, par exemple. Cette précarité se paie d'une non-vie ou d'une existence à peine visible. Pour ces structures, l'effet des baisses budgétaires et de la politique culturelle, c'est au mieux marche ou crève, au pire l'invisibilité donc. L'invisibilité, comment te dire, c'est un peu comme une sorte de clochardisation et de paupérisation moderne. Ce sont des artistes et des techniciens qui disparaissent lentement des statistiques. On fait comme si nous n'existions plus, nous devenons des travailleurs quasi clandestins de la chose artistique. La précarité des structures plus solides est, elle, plus complexe. La structure plus solide, que l'on nomme parfois institution, a un devoir d'image. Sa visibilité fait partie de son aura. Son existence même est un vecteur positif en termes d'image pour la cité ou le territoire. Celle-là, pas question de la laisser crever. Enfin, pas question de la laisser crever de façon trop voyante. Car il ne faut pas oublier que derrière tout cela, il y a en jeu des retombées économiques non négligeables, et que la structure plus solide sert aussi de support publicitaire ou de vitrine. Aussi, coûte que coûte, il faut donc lui préserver au moins les apparences, et ce jusqu'à ce qu'elle devienne une simple et belle coquille, une simple et belle coquille, mais vide. Par contre, pour vider la coquille de sa substance, c'est très simple. Il suffit de maintenir ses aides quelques années, mais à un niveau fixe, et laisser l'absence de réajustement financier faire son œuvre. Ainsi, le tour est joué. Et le château de cartes s'écroule brutalement. Le château de cartes s'écroule brutalement à moins que le navire ne soit renfloué. Et c'est là où nous rentrons dans la théorie des dominos, mais rassurez-vous, j'ai presque terminé, car c'est maintenant sur les deniers des collectivités locales et territoriales que va se faire le renflouement. Je ne te parle même pas de cette épée de Damoclès qui planera sur nos têtes désormais, à savoir le risque du clientélisme qui en découlera. Clientélisme, concrètement, cela veut dire qu'à l'avenir, de nombreuses collectivités locales et territoriales emboîteront le pas de l'État et se désengageront en partie du financement culturel en faisant des choix. C'est exactement ce qui arrive à la compagnie de danse que tu n'as pas pu rencontrer récemment, car elle venait de perdre le soutien de sa ville. C'est donc désormais sur ce chantage cynique que va s'opérer et se bâtir le désengagement de l'État, État pourtant garant par la Constitution de l'égalité de tous pour l'accès à la culture notamment. Dans cette affaire, l'État fait un calcul habile. Outre qu'il fait des économies sur le dos des collectivités, il espère aussi tirer quelques bénéfices de l'opération. Le premier bénéfice, c'est la réforme et l'allègement de ses propres services dans le cadre de la RGPP, Révision Générale des Politiques Publiques, réforme qui s'accompagne aussi en filigrane de l'ouverture au secteur marchand et privé. Le second bénéfice tout aussi brutal, c'est l'effet mutualisation et regroupement des entreprises artistiques qui se trouvent accélérées et encouragées. Chez nous, c'est la mutualisation de la misère qui nous est proposée. Réunissez-vous, nous disent-ils, car vous comprenez, l'empilement et l'émiettement des aides, c'est tellement inutile. Ou encore ceci, cherchez des mécènes, nous avons fait une loi sur mesure pour tous les financeurs privés afin qu'ils vous soutiennent. Le mécénat, ils n'ont que ce mot-là à la bouche. Alors que dans le même temps, de l'autre côté de l'Atlantique, les artistes américains réclament actuellement un secrétariat aux arts, à leur président Barack Obama. Et voilà comment des pans entiers de notre secteur se retrouvent marginalisés, et voilà pourquoi la culture a deux vitesses, celle de l'excellence d'un côté, car ça y est, ils ont lâché le mot, et celle de la médiocrité de l'autre n'est plus très loin. Car s'il y a excellence artistique quelque part, et pour autant que le mot excellence ait un sens, c'est bien qu'il y a médiocrité ailleurs. Au fond, ce que ne comprennent pas nos décideurs, ou feignent d'ignorer plutôt, c'est que le développement harmonieux de notre secteur, la culture, et de tous les autres secteurs au service du bien commun, procède de bien d'autres choses que de la seule réalité économique. Ce qu'ils n'ont pas compris, ou alors trop bien, c'est que c'est de sens et d'utopie dont nous avons besoin. Aussi, je crois que face à leur vision réductrice et caricaturale de nos missions, doit s'opposer une autre vision, la nôtre, vision qui procède d'une réalité pragmatique, pratique, et que Lautré Hamon résume par ces mots. La poésie a pour but la vérité pratique. D'ailleurs, à ce propos, en citant Lautré Hamon, je me demande tout à coup si le nouveau Conseil de la création l'aurait repéré en son temps. Pour autant, et c'est heureux, la culture est encore présente aujourd'hui presque partout. La peste d'Artaud minerait encore le corps social, semble-t-il. Il n'est donc pas trop tard. Quant à l'artiste, peu importe qu'il soit conscient ou non de ce dont il est porteur, car même quand il n'est porteur que de divertissements consolateurs, il œuvre encore à une transformation du monde. Et puis, à contrario de la tentative d'hégémonie télévisuelle sur nos cerveaux, l'art et l'artiste nous sortent au sens propre et au sens figuré de l'enfermement et de la stérilisation de nos imaginaires. Sans oublier que l'artiste, dans son refus d'être assimilé ou assimilable au seul rapport marchand, peut et doit participer à défendre un autre mode d'existence et à revendiquer un autre système de valeurs. Sois convaincu de cela, Mathilde. Partout, le désengagement de l'État, qu'il soit financier ou qu'il soit celui du déficit de la pensée, fait l'objet de vives contestations. Aussi, par-delà tout corporatisme, mettons-nous ensemble en capacité d'exiger des changements basés sur nos savoir-faire, nos réflexions, nos expériences, nos propositions et nos volontés à tous, et ce, afin de nous réapproprier nos missions. Tu n'as pas encore 17 ans, moi j'en ai bientôt 50. D'aucuns diront toute l'insouciance et la dangerosité qui est la mienne de t'écrire de telles choses. Moi je pense au contraire que tu dois savoir. J'allais oublier Mathilde, mais as-tu fini de lire La Princesse de Clèves, car une question me taraude. Trouves-tu cette lecture si inutile et si traumatisante pour une enfant de ton âge? Bien.
C'était une intervention d'Yves Grenier, technicien du spectacle, lors de la soirée de l'Appel des Appels le jeudi 12 mars 2009 à Marseille, Friche-la-Belle de Mai. Une nouvelle rencontre de l'Appel des Appels à Marseille est prévue pour le 17 avril 2009. Plus d'infos et contacts sur appeldesappels13.blogspot.com.